De retour à Libre-Échange avec le directeur de la santé publique, Yves Bonnier-Vigier. On discute évidemment de ce coronavirus chez nous. Il y a eu des nouvelles mesures qui ont été prises. Je vais y revenir tantôt. On continue de parler un petit peu du virus. On a parlé un peu de ce qui se passe un peu sur le terrain. Qu'est-ce qui pourrait se passer? On a parlé un petit peu des tests et j'aimerais revenir là-dessus. Les tests de dépistage à ce moment-ci, lorsqu'on est, comment ça fonctionne sur le territoire chez nous et où on va avoir, comment... Le cheminement du test, là, et combien de temps ça prend avant qu'on puisse avoir les résultats?
OK. Alors, quand quelqu'un a des symptômes, il revient de voyage, on lui demande, il va appeler le 877-644-4545. Et là, on va lui demander où il demeure, etc. Puis on va le diriger vers un endroit pour avoir le test. Et donc, la personne va se présenter et le test, c'est pas vraiment long, hein, c'est une minute ou deux.
Et c'est
et
où?
Et après ça, pardon?
À quel endroit, je pense, dans la côte de Gaspé, là? Est-ce qu'on sait les endroits? C'est l'hôpital?
Actuellement, c'est à l'hôpital. La plupart de nos régions, c'est dans les centres hospitaliers actuellement que le test se fait.
OK.
Mais il y a tout un mécanisme qui est en train de se mettre en place pour que ça se fasse à côté de l'hôpital, pour pas encombrer justement les entrées de patients et tout ça, puis éviter la proximité, la contagion le plus possible.
Oui, on dit même qu'il y en il y a des tests qui vont se faire en voiture, donc les gens sont prêts à l'extérieur.
Ben, effectivement, il y a des tests qui ont pu se faire comme ça. Ça va être probablement réorganisé autour de roulottes là, qui vont être amenées proche de l'hôpital et de telle sorte que les gens puissent avoir accès facilement, puis en même temps que ce soit peut-être plus chaud que dans la voiture. Là,
ouais.
Si jamais...
ouais, on comprend.
Bien que c'est vraiment pas long, hein. C'est vraiment pas long comme test. Là. On prend un peu un prélèvement de salive dans la gorge, puis un peu de sécrétion dans le nez. Là. C'est pas long à faire.
Et ce test-là va où après? Et ça prend combien de temps?
Après ça, il est envoyé dans un laboratoire qui peut faire le test. Actuellement, le laboratoire le plus proche est à Québec. Il y a quelques jours encore, il fallait s'attendre jusqu'à Montréal. Maintenant, le ministère a réussi à déployer plus de laboratoires et il va en déployer probablement beaucoup plus tard encore. Donc, pour l'instant, ça va à Québec. On espère qu'un jour, ça va se rendre jusqu'à Rimouski seulement. Mais, il y a tout ce temps de voyage là, qu'il faut compter.
Donc, ça peut prendre quelques jours là, avant d'avoir le résultat?
Oui, ouais. Le résultat en moyenne actuellement, c'est 4 à 5 jours qu'on doit attendre, là, avec compte tenu des transports, des temps d'analyse, le nombre de tests qui doivent être faits à l'ensemble du Québec. Puis les capacités de faire des tests. C'est pour ça que vous avez entendu que la ministre McCann annonce que les capacités de tests sont en accéléré là, pour les augmenter de jour en jour.
Sur les personnes maintenant, à partir du moment qu'on est testé, c'est positif. Combien de personnes risquent d'être malades là, vraiment de ce coronavirus? Parce que là, on dit tantôt 40 à 60 % du monde pourrait être touché, mais ça ne veut pas dire qu'on sera malade. Là. Donc, combien pourrait être malade?
Ben, quand on parle de 40 %, c'est des gens qui vont être malades. Là. Mais être malade, ça veut dire faire un petit rhume ou être gravement malade. Mm-hmm. Alors, la majorité des gens vont faire quelque chose qui va ressembler à un rhume ou une bonne grosse grippe, mais ils vont pouvoir rester à la maison, puis ça va passer. Malheureusement, il y a à peu près 10 à 15% des gens qui vont être infectés, qui vont nécessiter une hospitalisation. C'est-à-dire qu'ils vont être assez sévèrement touchés pour nécessiter une hospitalisation. Et parmi ceux qui vont être hospitalisés, il y en a près de la moitié qui vont nécessiter peut-être même des soins intensifs. Alors, c'est pas une maladie banale, c'est très sévère et c'est pour ça qu'on demande de prendre vraiment, vraiment toutes les mesures nécessaires pour ralentir sa progression. Parce que si, on disait quelque chose, la moitié de la population du Québec est touchée et que tout le monde était malade en même temps, c'est sûr qu'on ne pourrait pas soigner tout le monde. Mm-hmm. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'on prend toutes les mesures possibles pour nous donner le temps de bien soigner chaque personne qui va se présenter.
Ça prend un soutien souvent respiratoire, c'est ce qu'on comprend, parce que ça demeure que les gens ont une difficulté respiratoire. Donc, est-ce
oui,
qu'au
quand
niveau...
on parle de gens qui doivent aller aux soins intensifs, évidemment, c'est des gens qui seront probablement intubés et qui seront sous respirateur.
Donc, est-ce qu'on a suffisamment d'appareils ou est-ce qu'on a beaucoup d'appareils en Gaspésie? Est-ce qu'on sait ça pour traiter? Donc,
actuellement, on n'a aucun problème en Gaspésie compte tenu du fait qu'on n'a pas de cas encore et qu'on ne s'attend pas à en avoir tout d'un coup beaucoup. Mais par mesure de précaution, il y a des appareils qui ont été commandés. Donc, la capacité va pratiquement doubler là, dans notre région.
Et au niveau des lits, on sait qu'on a augmenté aussi. Ça aussi, ça va se faire?
La même chose. Ouais. Les lits qu'on pouvait libérer ont été libérés. Et de nouveaux lits vont être installés.
Est-ce qu'il pourrait y avoir... réaménagement pour faire plus de place pour de lits à l'extérieur des hôpitaux. On voit ça ailleurs, donc des endroits où on fait d'autres roulottes ou d'autres endroits, si c'était nécessaire.
Oui. Effectivement, Mme Joanne Méthode, qui est la directrice générale et responsable de l'organisation des soins hospitaliers, a annoncé hier qu'il y avait tout un plan qu'elle appelle un plan de contingence, qui veut dire qu'on réaménage tous les services pour s'assurer qu'on soit capable de soigner adéquatement toutes les personnes qui vont se présenter avec la COVID.
Au niveau des ressources matérielles, tantôt par les respirateurs, mais bon, il y a eu toute cette question des masques là, qui a été soulevée dans les points de presse. Est-ce qu'on en a suffisamment et on dit aux gens de pas utiliser ça parce que, bon, finalement, c'est pas utile?
Mm-hmm. Effectivement. Le masque ne protège pas les personnes qui sont pas malades. Là. Le masque sert à empêcher les gouttelettes de se propager. Donc, ils sont destinés aux personnes malades et au personnel qui doit approcher des personnes malades éventuellement. Mais les personnes hospitalisées, elles, en milieu hospitalier, le personnel qui va travailler avec ces personnes-là mettra un autre type de masque qui, lui, est étanche. Alors, il y a des pénuries de masques un peu partout. C'est important que les masques soient utilisés à bon escient. C'est sûr que si monsieur et madame tout le monde m'a apporté un masque, on n'en aura plus pour les gens qui en ont vraiment besoin.
Donc, il y a un appel à la population par rapport à ça. Est-ce qu'on sait est-ce qu'il y a un produit qui, quand on parle là, justement de...
De gel.
Oui, ouais, le gel. En tout cas, le gel d'alcool, oui. Donc, est-ce qu'il y a un produit qui est plus efficace qu'un autre ou c'est le savon vraiment qui est le mieux? Parce qu'on a le gel à l'alcool là, que tout le monde semble utiliser fréquemment. Oui. Est-ce que c'est bon, ça?
Oui. C'est pas mauvais, mais le savon puis l'eau, ça peut très, très bien faire. Puis tous les désinfectants domestiques ordinaires fonctionnent très bien aussi.
Donc, à la maison, oui, si on...
À la maison, tenir la maison propre, c'est avec ce qu'on utilise habituellement, ça fait très bien l'affaire.
Et quand une personne doit se confiner, s'isoler dans une maison avec la petite famille, donc c'est isolé, donc ça ne doit pas côtoyer le reste de la famille, c'est quoi, qu'est-ce que c'est?
Ça, il faut maintenir une distance, hein? C'est-à-dire que, donc, on essaie de voir si on est capable de réaménager la maison pour qu'il y ait une pièce qui est consacrée à cette personne-là. Et évidemment, il y a différentes... Si la personne est symptomatique, ça sera encore plus important, c'est ce que je dis, là. Il faut qu'il y ait une pièce consacrée à la personne où elle va dormir, manger. Et quand les autres personnes vont la voir, bien, garder une distance de 1 à 2 mètres, là, à peu près, pour éviter que si elle tousse inopinément, elle n'a pas le temps de se mettre le coude devant le visage, mais au moins les gouttelettes elles ne se répandent pas jusqu'à la personne qui vient la voir.
Et les objets que...
Et évidemment, c'est dans ces conditions-là, ça implique évidemment de se laver les mains avant d'aller voir la personne, après aller voir la personne.
Et les objets autour de cette personne-là, donc c'est ça aussi, là, les objets dans la maison, il ne faudrait pas toucher un objet dans la chambre et après ça toucher un meuble ailleurs dans la maison. Donc les objets, j'y reviens parce que c'était aussi, est-ce que c'est 3 heures, est-ce que c'est une journée?
Sur une surface sèche, on pense que le virus peut vivre jusqu'à 3 heures. Et sur des surfaces humides, jusqu'à 6 heures.
Une surface humide, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est une surface humide? On l'entend.
Je sais pas, un linge mouillé. Là. Okay.
Vous avez
une lingette puis un linge de vaisselle, je ne sais pas trop quoi. Là.
OK.
Ça, c'est humide. Alors, l'idéal, effectivement, c'est de faire attention de ne pas transporter les objets dans un endroit à l'autre de la maison. Là.
En terminant, on sait que malheureusement, il y a une personne qui est décédée du coronavirus au Québec. Et ce qu'on a appris, c'est qu'elle a été contaminée, en tout cas, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, par quelqu'un qui revenait de voyage. Alors, je pense que là, le message doit passer encore que ceux qui reviennent de voyage doivent s'isoler. Là, c'est pas des blagues?
C'est vraiment pas des blagues. C'est très sérieux. Et effectivement, ce sont des personnes comme ça, plus vulnérables, qui vont payer le prix. Là. Alors, quand on demande aux gens de se laver les mains, quand on leur demande d'être en isolement, c'est très sérieux. Il existe définitivement des cas réels de mortalité suite à des contaminations par des gens qui n'ont pas suivi les consignes.
Et je pense qu'en Gaspésie, bon, on sait que ça va arriver, qu'il y aura des cas. Pour l'instant, si les gens peut-être disent « bon, il n'y a pas de cas, ça va bien », j'imagine qu'à partir du moment où il y aura un premier cas, ça peut. Est-ce que ça va créer, d'après vous, comme un ressaisissement, que ça va peut-être augmenter les gens qui vont faire plus de protection et en même temps un peu l'anxiété là, avec ça?
Bien, comme humains, nous sommes tous différents. Il y a des gens qui déjà respectent très bien les consignes parce qu'ils ont très bien compris comment ça fonctionne et qu'il faut protéger soi-même et les autres. Il y en a qui. Voyant ça panique, puis ils vont dans l'exagération, ils vont aller chercher de la nourriture. J'ai lisé un article ce matin où on achetait beaucoup de munitions puis d'armes.
Ouais.
Puis il y a d'autres personnes qui vont être dans le déni, qui vont dire non, ça n'existe pas. C'est clair que plus on se rapproche de la réalité, plus ces perceptions-là se réajustent et tout le monde va mieux percevoir la réalité, mais il faut s'en parler. Je pense que la rencontre qu'on a ce matin, c'est pour ça. C'est pour comprendre que c'est une maladie sévère, contagieuse, et qui peut emporter nos êtres chers qui sont plus âgés ou qui sont atteints de maladies chroniques. C'est à nous, chacune et chacun d'entre nous a un rôle à jouer là-dedans.
Yves Bonnier-Vigée, donc directeur de la santé publique, Gaspésie-les-Îles, merci pour cet entretien.
Bien, merci.